Ces derniers 150 ans ont été témoins d'une augmentation phénoménale de la connaissance humaine, comme en témoignent les milliers d'institutions d'éducation, l'avancement des sciences et les nombreuses inventions dans tous les domaines. Le prophète Daniel a prédit ces choses. C'est ce qu'il appelait le temps de la fin. Qu'est-ce que ce temps de la fin? C'est l'une des questions que nous discuterons par la suite dans nos études de la Bible. Ce programme vous est présenté par l'Association des étudiants de la Bible, qui publie la revue Aurore. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire combien je suis reconnaissant à cette association pour les petits livres d'études de la Bible qu'il nous a procurés, ainsi que notre revue Aurore, qui facilite beaucoup l'étude de la Bible. Je trouve qu'il est difficile de se souvenir de tout ce que l'on entend, aussi est-ce d'un grand secours d'avoir ces renseignements imprimés sous forme de livre, ne crois-tu pas, Pierre?
Oui, certainement, Thomas. Et je vois que ta Bible est ouverte au livre de Daniel. Te souviens-tu de certaines choses que nous avons déjà étudiées dans ce merveilleux livre de prophéties?
Mais comment donc? Je me souviens en particulier de deux prophéties concernant le royaume futur de Christ. L'une met en lumière le songe de Nebuchadnezzar, où nous avons vu une pierre qui devint une grande montagne et qui remplit toute la terre. Et l'autre, le songe de Daniel, où il a vu la domination des gentils représenté par quatre bêtes, après quoi vint le royaume du Seigneur. C'est dans le septième chapitre de la prophétie de Daniel.
En effet. Puis, dans le huitième jusqu'au onzième chapitre, Daniel reçoit d'autres visions qui décrivent les événements et les expériences, les épreuves qui devaient arriver au peuple du Seigneur, avant l'établissement du royaume messianique. Beaucoup d'épreuves et de persécutions pour son peuple, le peuple de Dieu. Par conséquent, Daniel désirait vivement savoir ce qui arriverait à la fin de tous ces maux et de la domination des mauvais gouvernements de ce monde. Cette assurance lui fut donnée, et elle est relatée dans le dernier chapitre de la prophétie. Le quatrième verset de ce chapitre donne une orientation. Veux-tu nous le lire, s'il te plaît?
Au verset 4 du 12e chapitre de Daniel, nous lisons « Et toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Beaucoup le scruteront et la connaissance augmentera. Pierre, que signifie l'expression « le temps de la fin » Est-ce la fin des temps ou la fin de l'expérience humaine? Que veut dire au juste cette expression?
Le temps de la fin n'est pas la fin des temps. Pour Daniel, cela voulait dire la fin des souffrances pour son peuple et la fin du mal en général. Nous avons appris par notre examen des autres livres de la Bible que Dieu a créé la terre pour être la demeure éternelle de l'homme. Et le dessein du Créateur est que la race humaine demeure à jamais sur la terre, dans le bonheur.
Sûrement pas dans un état de péché et de mort tel qu'il existe aujourd'hui.
Non, la Bible révèle que le Créateur ne tolère le mal que temporairement, qu'un glorieux triomphe du bien lui succédera par l'établissement du royaume messianique. Ce sera la fin des conditions désolantes qui ont troublé le prophète Daniel, et c'est à cela qu'il fait allusion en parlant du temps de la fin.
Pierre, je remarque que dans le texte que je lis, Daniel associe le temps de la fin à l'augmentation de la connaissance et de l'agitation sur terre. Cela est particulièrement significatif.
Extrêmement significatif, Thomas. Cela identifie bien notre période avec le temps de la fin prophétique. Les derniers 150 ans marquent une réalisation de cette prophétie.
Il est vrai qu'il y a une grande différence de connaissance dans tout le monde, comme le témoignent les progrès de la science, des écoles publiques, les milliers d'institutions d'enseignement supérieur, les inventions de tout genre. Mais Pierre, cela n'est-il pas arrivé de façon très naturelle? La connaissance a augmenté par phases successives à travers le siècle, n'est-ce pas?
Non, Thomas. Avant le 19e siècle, la vaste majorité des gens, dans toutes les parties du monde, ne savaient ni lire ni écrire. L'instruction obligatoire, les écoles de l'État étaient inconnues. Le monde ne bénéficiait d'aucune de nos inventions modernes.
Il est vrai que les gens de notre génération se rendent difficilement compte que leurs arrière-grands-parents n'avaient jamais vu une automobile, n'avaient jamais vu un bateau à vapeur, n'étaient jamais entrés dans un train, n'étaient jamais montés dans un avion, n'avaient jamais écouté une radio ou suivi un programme de télévision.
Et dans le passé, le monde des affaires ne jouissait pas des avantages du téléphone, des machines à écrire et à calculer, etc., etc. La façon de voyager, de cultiver la terre, de fabriquer, de mener les affaires était restée la même pendant des siècles, jusqu'à ce que, soudain, arrivait l'augmentation des connaissances et l'agitation, exactement comme le prophète Daniel l'avait prédit.
L'invention de l'imprimerie n'est-elle pas pour quelque chose dans cette phénoménale augmentation de connaissances?
Sans aucun doute. Mais c'était, je crois, selon la providence et en accord avec le programme divin, les événements fixés par le Créateur. Il fallut cependant beaucoup de temps avant que l'invention de l'imprimerie commençât à changer considérablement les choses.
Mais à la fin, elles changèrent. Sais-tu, Pierre, comment j'envisage l'une des conséquences importantes de l'augmentation prévue de la connaissance humaine? C'est qu'elle a été de rapprocher les nations les plus éloignées de la Terre par les moyens modernes, les voyages et les communications, les rendant ainsi dépendantes les unes des autres.
C'est vrai, Thomas. Mais tandis que les nations sont ainsi devenues voisines, dans bien des cas, elles sont bien peu fraternelles. Bien des luttes ont été fomentées entre elles, amenant des périodes de troubles nationaux et internationaux, tels que le monde n'en a jamais vu auparavant.
Pierre, est-ce le temps de troubles que le premier verset de ce chapitre annonce?
Sans nul doute, Thomas. Pour nous rafraîchir la mémoire, il serait bon que tu lises ce verset.
Je le ferai volontiers. Voici. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui défend les enfants de son peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura jamais eu depuis qu'il existe des nations. En ce temps-là, ton peuple sera délivré, à savoir quiconque sera inscrit dans le livre. Pierre, qui est celui que la prophétie nomme Michaël?
Michaël est l'un des titres que la Bible donne au Messie de la promesse. Michaël qui se lève marque l'action de prendre le commandement. Et comme nous l'avons vu et appris, le premier résultat de la prise de pouvoir du Christ dans les affaires humaines provoque une période de trouble.
C'est, je pense, la même idée générale représentée par la pierre qui frappe les pieds de la statue prophétique de Nebuchadnezzar. Elle a réduit en poule et qui devient une grande montagne qui remplit toute la terre.
C'est juste. Cette statue, comme nous l'avons vu la semaine dernière, représente les puissances qui ont régné sur la terre et qu'il faut écarter quand le royaume du Seigneur s'établit. Et c'est l'accomplissement de cette prophétie qui amène un temps de trouble tel qu'il n'y en eut jamais depuis qu'il existe une nation.
Il est certainement merveilleux de constater comment les différentes prophéties de la Bible concordent quand on les voit sous leur vrai jour. Mais Pierre, dans ce premier verset du chapitre que j'ai lu, Daniel est averti que dans cette période, qu'à la fin, ces gens seraient délivrés. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est une allusion à la délivrance de tout le peuple de Dieu, ainsi qu'à une promesse de leur délivrance de la mort. Dans ce dernier chapitre, le verset 13, Daniel reçut l'assurance qu'il se trouverait debout pour son héritage à la fin des jours. Le temps de la fin, vois-tu, est une période transitoire, amenant l'ère nouvelle du royaume messianique. À la fin de cette période de transition, dans laquelle nous vivons déjà, le moment de la résurrection des morts viendra. Et alors, Daniel sera réveillé du sommeil de la mort, et comme l'assure la prophétie, il sera debout pour son héritage.
Pierre, es-tu sûr que c'est bien là le sens de la prophétie?
Oui, tout à fait sûr que c'est bien là le sens. Car le second verset du chapitre dit, « Alors, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. » Cette expression ramène notre esprit au jardin d'Éden, lorsque la sentence de mort fut prononcée contre nos premiers parents. Tu te souviens que le Seigneur dit à Adam, « Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. »
Cela voudrait dire que tous les morts se sont endormis dans la poussière de la terre, et la promesse de leur réveil est tout simplement une promesse de la résurrection des morts.
Mais oui.
Mais je sais fort bien qu'il faut beaucoup de foi pour croire que le moment est proche où le Créateur exercera son pouvoir pour rendre les morts à la vie. Je n'ai aucun doute, naturellement. Dieu peut accomplir sa promesse de ressusciter les morts. Mais croire que le moment est proche où il va vraiment le faire, cela, c'est une autre affaire.
Nous ne devrions pas avoir de telles difficultés, Thomas. Pense seulement aux autres choses merveilleuses qui sont prédites dans le 12e chapitre de Daniel, à l'accomplissement desquelles nous assistons déjà.
Par exemple?
Eh bien, prenons l'augmentation de la connaissance. Suppose qu'au début du 19e siècle, nous ayons discuté de cette prophétie de Daniel et que je t'ai dit que le temps viendrait où les gens pourraient se déplacer dans des véhicules sans chevaux, à la vitesse de 150 km à l'heure, ou bien dans des machines volantes à une vitesse de 900 km à l'heure, qu'une personne pourrait converser avec une autre à une distance de milliers de kilomètres, même sur des continents éloignés. que dans son propre foyer, dans cette nouvelle période merveilleuse, on pourrait entendre et voir des événements importants qui se sont passés quelques minutes après leur accomplissement. Que supposes-tu? Que m'aurais-tu répondu alors?
Pierre, je crois avoir déjà dit que j'admirais ton enthousiasme. Mais je doute que je puisse prendre au sérieux ce que tu me disais.
Et l'on n'aurait pas pu te blâmer. Mais Thomas, aujourd'hui, ces faits merveilleux sont des banalités de tous les jours. Ces miracles se passent autour de nous sans qu'on songe qu'ils sont l'accomplissement de la prophétie de Daniel au sujet de l'augmentation des connaissances en ce temps de la fin.
Quel effet cela peut-il avoir sur la pensée que la résurrection des morts soit proche?
C'est que dans la même prophétie, on nous dit que la résurrection des morts arriverait en ce temps-là. Puisqu'une bonne partie de la prophétie s'est déjà accomplie, pourquoi aurions-nous la difficulté à croire que le reste s'accomplira aussi? N'est-ce pas raisonnable de le considérer ainsi?
Oui, Pierre, en effet. Et je suis frappé par le fait qu'une bonne compréhension des prophéties donne une perspective d'espoir au lieu de condamnation. Pour moi, c'est ainsi qu'il faut considérer cette explication. Et mes amis, c'est ce que vous trouverez si vous lisez la revue des prophéties de l'Ancien Testament contenant le texte « Le royaume de Dieu est vainqueur ». Nous vous invitons à demander un numéro gratuit. Savez-vous que le prophète Osée a prédit la destruction de l'enfer? Où sont les morts? Où serez-vous à la résurrection? Savez-vous que la course universelle aux armements est prédite dans la prophétie de Joël? Savez-vous que le rassemblement des Juifs en Palestine est aussi prédit dans le livre de Joël? Savez-vous qu'il était possible à Jonas d'être avalé par un grand poisson et de rester vivant? Savez-vous que les derniers jours prédits dans la Bible apporteront des bénédictions durables pour toute l'humanité? Ce ne sont que quelques-unes des questions que vous trouverez traitées dans le texte « Le royaume de Dieu est vainqueur ».
Demandez le petit livre « Royaume ». Demandez simplement « Royaume ». Ce petit livre vous sera envoyé gratuitement et franco de port. Cette étude de la Bible vous a été présentée par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore, en coopération avec les groupes d'études de la Bible et leurs amis de partout. Nous serons avec vous de nouveau la semaine prochaine. Dites-le à vos amis et que Dieu vous bénisse tous.